Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique pour terminer cette émission consacrée à Woodstock. Woodstock, c'était le passé. Maintenant, on va s'intéresser au futur et notamment aux tendances web 2019 que l'on va essayer de passer en revue en faisant un peu de prospective avec nos deux prospectivistes justement de ce soir. Amaël Guitton de Libération.
Bonsoir.
Prospectiviste.
C'est flatteur, prospectiviste. Hein. Futurologue, non?
Si tant est qu'on arrive à prévoir quoi que ce soit. Elliot Depers qui est resté avec nous. Alors, pour cette dernière émission de l'année 2018, nous vous proposons de nous intéresser à l'année à venir, un peu de prospective donc. On ne va pas être exhaustif en quelques minutes, mais on va essayer de prendre quelques points qui pourraient marquer l'année 2019. Peut-être on peut commencer par l'AI, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour, au fond, du big data, puisque l'intelligence artificielle, ce n'est que du big data un peu renommé avec un nouveau nom. Peut-être pour commencer, Amaël Guitton, sur ce sujet.
Ça avance très vite, ça progresse. On voit que surtout, ça va dans de plus en plus de secteurs. J'ai travaillé récemment sur les applications en santé. C'est vrai que c'est assez vertigineux. On voit qu'aujourd'hui, l'autorité du médicament aux États-Unis a autorisé l'utilisation de dispositifs d'intelligence artificielle pour diagnostiquer des pathologies oculaires, par exemple. On s'en sert aussi pour prédire la réaction au traitement en cancérologie, par exemple. Ça pose énormément de questions parce qu'on voit aussi que en la matière, une fois de plus, les GAFA, comme on dit, enfin en particulier Google, Facebook, Microsoft, etc., ont là encore un temps d'avance. Google, par exemple, fait déjà des expérimentations typiquement sur les pathologies oculaires avec des hôpitaux en Inde. Donc, va encore se poser la question du rôle et de la place de ces acteurs dans un secteur qui, par définition, est à la fois un secteur qui, dans lequel le public les autorités publiques ont un rôle absolument prépondérant et qui est par ailleurs un secteur qui touche à l'intime. Hein. Donc je pense que ça va de nouveau provoquer de vrais débats sur comment est-ce qu'on protège les données de santé qui sont par définition des données particulièrement sensibles, quelle place on donne à la machine par rapport à l'humain, parce que ça aussi, hein, les médecins se posent évidemment beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait de notre système de protection sociale qui est un système qui repose sur la solidarité alors qu'on va vers une médecine de plus en plus individualisée. Enfin, ça soulève des questions assez passionnantes.
Elliot Depers sur l'intelligence artificielle.
Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est peut-être le nouveau terrain commercial, en tout cas d'évolution pour beaucoup d'entreprises, avec tous les enjeux que ça soulève. On peut parler des enjeux effectivement environnementaux, beaucoup de consommation d'énergie, beaucoup de nouvelles données qui sont générées, et puis effectivement toutes ces données qui viennent pour beaucoup d'utilisateurs parfois anonymisés, parfois pas. On a vu encore il y a quelques semaines que Facebook avait donné accès à plusieurs millions de données de comptes utilisateurs à d'autres compagnies comme Airbnb et Netflix pour qu'elles puissent effectivement utiliser ces données-là. Derrière, effectivement, se poser la question de savoir est-ce que tous ces services-là ne vont pas nous compromettre à un moment donné. Je pense que c'est ça la grande question, moi, qui me taraude.
Il va y avoir un gros débat sans doute dans les mois à venir, peut-être même les années à venir, sur la question de la reconnaissance faciale. On voit venir là de la part de Google et de Microsoft des appels à réguler parce que eux développent des outils et ils commencent à voir quand même les impacts que ça peut avoir et les problèmes que ça peut poser. Et ce sont eux, et c'est quand même pas tous les jours que ça arrive, qui appellent les régulateurs à donner un cadre à tout ça pour que justement il n'y ait pas de mésusage de ce type de techno qui pose effectivement des risques en matière de liberté fondamentale extrêmement élevés.
En matière d'intelligence artificielle, les géants du web disent qu'ils travaillent de manière de plus en plus efficace sur la question du langage et notamment de la traduction. Alors c'est lié pour une part aux assistants vocaux aussi. On sait que la traduction, c'est pas parfait, même si Google Traduction arrive à traduire, mais ça donne parfois des résultats assez étranges. Ils disent on va y arriver.
Ah, ça progresse extrêmement vite, mais pour le coup, c'est vraiment deux domaines où le deep learning, ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, qui est une branche de l'intelligence artificielle et qui a vraiment le vent en poupe là depuis quelques années, parce qu'elle repose sur des corpus massifs de données, et donc effectivement, c'est aussi pour ça que Google, Facebook, Microsoft, etc. se sont engagés là-dedans. Il y a deux domaines où le deep learning, ça marche effectivement très bien, c'est la reconnaissance d'images et la reconnaissance de texte, et par extension, la traduction. solution. Alors, on voit effectivement que c'est pas parfait. On voit régulièrement, notamment, passer des petites images de d'IA qui se retrouvent à pas pouvoir vraiment faire la différence entre un petit chien et un cookie, par exemple, qui se ressemblent. Mais quand même, ça avance. Et sur la traduction, c'est la même chose. Enfin, il suffit il faudrait pouvoir revenir en arrière et réutiliser la traduction de Google, par exemple, telle qu'elle était il y a 5 ans. On se rend compte que ça a quand même énormément progressé. Ça ne sera jamais totalement parfait.
Surtout pour des textes littéraires notamment.
On aura toujours besoin de vrais traducteurs, notamment dans l'édition, mais moi je vois bien l'usage que j'en ai en tant que journaliste quand il s'agit d'essayer de comprendre,
exemple.
Non, ou russe, ou allemand, ou parce que mon allemand est vraiment très 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 rouillé.
Votre polonais, votre russe est bien meilleur.
Ils sont parfaitement calamiteux, mais on voit bien qu'on arrive quand même à s'en sortir en ayant une compréhension assez fine de ce qu'on lit.
Et puis il y a tout l'enjeu de l'anticipation qui effectivement devient très pertinent sur la question des politiques, parce qu'on arrive à traiter des masses colossales de données et d'identifier des motifs. Et ça permet par exemple dans l'observation des territoires, l'observation des images satellites, d'anticiper qu'on a vu qu'il y a un feu de forêt à tel endroit qui s'est déclenché, on arrive à revenir en arrière et d'identifier qu'il y a des zones similaires qui se ressemblent d'une image à l'autre, d'une zone à l'autre qui a donné un feu de forêt. Donc on peut imaginer qu'on anticipe des catastrophes naturelles en observant des volumes massifs de données, ce qu'on ne peut absolument pas faire à l'œil nu. Donc ça permet éventuellement une nouvelle forme de la gestion des politiques publiques par la modélisation et par la création de modèles qui permettent d'anticiper.
Alors on parle ce soir des tendances web de 2019, en partant de l'intelligence artificielle, transition facile avec le deuxième sujet que j'aimerais qu'on traite, à savoir la bataille entre la Chine et les États-Unis. Et là on voit bien qu'en matière d'intelligence artificielle, les Chinois mettent le paquet, si on veut le dire un peu de manière facile, comme ça, avec un travail et des sociétés ont le rôle d'Alibaba, de Tencent dans le deep learning et l'intelligence artificielle, Amal Guiton.
Ils ont un bassin de population déjà qui est colossal. Donc ça génère énormément de données. Et alors pour le coup, par rapport aux États-Unis et encore plus par rapport à l'Europe, le cadre de protection des données personnelles en Chine est quasiment inexistant.
Il n'y a pas de RGPD.
Il y a en plus effectivement une. Enfin, on le voit bien avec ce qui se profile en termes de notation, etc. Enfin, il y a une forme aussi de contrôle social de la population par les algorithmes, par les données, etc., qui est quand même extrêmement fort. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas vraiment de garde-fou sur l'exploitation des données, ils progressent extrêmement vite. Et puis, il y a effectivement une course qui est lancée. Mais alors là, pour le coup, c'est sur tous les secteurs. Ça va de l'intelligence artificielle à la 5G, hein, on le voit bien. Il y a des tensions commerciales extrêmement fortes entre ces deux superpuissances économiques. Et y compris même en termes de diplomatie, c'était quand même assez frappant de voir, par exemple, qu'au moment où se déroulait à Paris le forum sur la gouvernance de l'Internet qui est donc au départ né dans ces instances multi-acteurs du début de l'Internet et qui ont longtemps été dominés par les États-Unis. Il y avait un forum sur la gouvernance équivalent et concurrent en Chine quelques jours avant. Donc on sent aussi qu'il y a une volonté de porter non seulement de proposer des services alternatifs, mais aussi de porter une vision alternative qui puisse faire concurrence à la vision américaine.
Alors après l'intelligence artificielle et la bataille Chine-États-Unis, sujet sur lequel on reviendra au cours de cette année parce qu'ils vont être, on peut le penser, régulièrement dans l'actualité. Venons-en à la 5G, troisième point évoqué ce soir qu'on a choisi. Les premiers smartphones sous Android disponibles peut-être au premier semestre 2019, alors que pour les iPhones ce ne sera pas avant 2020. Il n'empêche, la 5G pourrait être une évolution, sinon une révolution. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, Elliot Peirs?
Moi, je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir la question de la couverture. Effectivement, c'est aujourd'hui, on a encore énormément de zones blanches en France, énormément de personnes.
Même en 2G et en 3G.
Et voilà, c'est ça, qui n'ont pas encore accès à Internet mobile, finalement. Et donc, ça pose énormément d'enjeux de développement des territoires, de développement économique. Et donc, je pense qu'il y a un peu un dérèglement entre ce qui ressemble un peu au développement des lignes à grande vitesse de TGV et derrière la perdition des petites lignes rurales du quotidien. Donc, moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète.
On est quand même pour le moment encore en phase de test. Hein. Je crois que les attributions de fréquence, ça doit être l'année prochaine. Orange lance des tests. Alors ils vont effectivement lancer des tests dans quatre grandes villes. Je crois que c'est Lille, Paris, Marseille, Nantes. Donc on sent que ça va très vite. Hein.
Mais la 5G, c'est notamment l'avènement de l'Internet des objets.
Et il y a vraiment l'enjeu des voitures connectées dans ce sujet-là, parce qu'effectivement, si on a des véhicules qui ont besoin d'analyser des situations en temps réel, qui ont besoin de communiquer des informations de manière extrêmement rapide à des serveurs pour réagir, eh bien, effectivement, on a besoin d'avoir des bandes passantes qui sont plus performantes. Et donc, la question derrière de la répartition de ces bandes-là, de savoir est-ce qu'on va pouvoir préserver une neutralité du net avec ces enjeux-là de vie ou de mort à travers ces véhicules connectés, donc ça soulève énormément de questions.
Qu'est-ce que vous voyez, quatrième sujet, venir, puisqu'on est dans la prospective avec nos prospectivistes dans les tendances web de 2019, qu'est-ce que vous voyez venir sur les réseaux sociaux, Amel Guiton ?
Alors là, pour le coup, ça dépend vraiment de ce qu'on entend par là, parce qu'il se passe énormément de choses. Il va y avoir des questions de données personnelles qui vont continuer de se poser par rapport à tout ce qui s'est produit par rapport à Facebook au cours de l'année 2018. Ça ne va pas s'arrêter. Le dernier scandale, c'était, je crois, encore à la mi-décembre. Hein, donc, on peut encore prévoir. Probablement des fuites l'an prochain. On voit revenir des formats. Je trouve que ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, c'est quand même extrêmement intéressant. On voit que par exemple les formats live ont extrêmement bien marché.
Les stories aussi.
Quelqu'un comme Rémi Buisine qui maintenant travaille pour Brut, ses lives sur les Gilets jaunes. Enfin, c'était quasiment des chiffres d'audience de télé. Ça dit aussi, je pense, quelque chose politiquement, c'est-à-dire que à la fois, je crois, le live et ces gens qui se filment en s'exprimant face caméra, etc. Ça dit quelque chose à la fois d'une volonté de reprise de parole et d'un besoin de transparence extrêmement fort qu'on sent monter et qui, d'ailleurs, y compris, s'exprime dans le rapport parfois conflictuel avec les médias classiques.
Dans les évolutions sur les réseaux sociaux, à noter, c'est un phénomène qu'on a vu apparaître au Brésil, l'utilisation de WhatsApp notamment et des groupes WhatsApp. Pour faire de la mobilisation politique, l'arrivée peut-être de la publicité peu à peu sur WhatsApp, la mort programmée de Google+, qui a été quasiment annoncée par Google, échec donc de Google face à Facebook en l'occurrence.
Elle était d'ailleurs avancée suite à une fuite de données, elle aussi, la mort de Google+.
Le fait que Facebook est affaibli aujourd'hui par rapport à Instagram, alors bien que Facebook, Instagram et WhatsApp, ce soit tout la même société Facebook, on voit bien que Instagram, et notamment grâce aux stories qui ont permis à Instagram de monter en puissance, y compris par rapport à Snapchat, qui a beaucoup de difficultés aujourd'hui. C'est ces tendances-là que vous voyez, notamment, Edouard Lepers.
Mais d'ailleurs, Instagram vient d'ajouter une fonctionnalité qui permet d'envoyer ses stories, c'est donc ces images qui durent que 24 heures, uniquement à un groupe restreint d'abonnés qu'on aurait choisi, qui seraient des amis proches. Et donc là, ça devient concurrencer, évidemment, Snapchat. Donc on va vers peut-être un peu plus encore de concentration, avec la question de l'information qui se pose. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, une énorme part de l'information provient de gens qui ne sont soumis à aucune déontologie, qui ne sont soumis à aucune règle et qui pourtant produisent du contenu informatif.
Sinon, leurs propres règles. Ouais.
Sinon, oui, effectivement, à leurs propres règles.
Mais qui décident eux-mêmes pour des raisons notamment commerciales ou liées aux États-Unis. Donc.
Ça, c'est vrai, effectivement. Et donc, et puis des gens qui agissent en leur nom. C'est-à-dire, ça, c'est très fort dans les réseaux sociaux, c'est que c'est des émetteurs qui sont individuels, qui créent leur propre identité et qui arrivent à informer leur communauté de manière peut-être plus granulaire finalement, mais en tout cas qui crée des canaux d'information. Et donc avec toute la question des fake news qui se développe et qui vise plutôt les réseaux sociaux en tant que plateforme, aujourd'hui on a un enjeu d'émetteur, c'est-à-dire qu'on a du contenu informatif et qui vient concurrencer directement les grands médias traditionnels. Et je pense qu'on en parle depuis des années, mais en tout cas la fuite d'audience, surtout pour les plus jeunes générations, et peut-être va voir son paroxysme à partir de 2019.
Cinquième tendance, et peut-être la dernière pour ce soir, dont on peut parler brièvement avant de terminer cette émission, tout ce qui va être autour du paiement, le paiement mobile, ce qu'on appelle le cashless, avec des expérimentations désormais très très avancées. Il y a la question de la Suède, évidemment les Chinois qui sont très puissants dans ce secteur-là, Apple qui travaille sur ça, Google aussi, et d'autres Lepers.
En Suède, il y a un truc intéressant qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un consortium de six entreprises, six établissements bancaires qui ont travaillé avec l'État à créer un protocole qui permet du paiement par mobile. mobile de manière instantanée et sans aucun frais. Et aujourd'hui, c'est une technologie qui est présente dans les téléphones de plus de 50% des Suédois et qui est en train de révolutionner effectivement les technologies de paiement et en même temps qui vient concurrencer directement tous les acteurs intermédiaires qui vivent sur le fait de prélever une commission de 2-3% sur chaque transaction. Donc à la fois les entreprises de cartes bancaires, tous les services de paiement en ligne comme PayPal et Stripe. Et c'est très intéressant parce que ça montre qu'un État peut être au devant de l'innovation et réussir à créer des standards qui rassemblent l'ensemble des acteurs bancaires. Pour moi, c'est très enthousiasmant.
Amaël Guiton.
Ce qui va de nouveau d'ailleurs poser évidemment des vraies questions de sécurité informatique. Enfin, ça va encore être un de ces enjeux, comme l'Internet des objets, ceci dit. Enfin, on voit que ça s'étend vraiment sur tous les plans. Ouais.
Et de la même manière, je pense que c'est aussi la question de la régulation des crypto-monnaies qui se joue en même temps que ça. C'est que on a inventé en 2019 une forme de new deal, de collaboration entre des acteurs privés qui vont porter l'innovation et qui vont créer des technologies de rupture et des acteurs publics qui vont faire en sorte que ces technologies soient stables, pérennes, ne donnent pas lieu à des fuites de données massives. Parce qu'in fine, je pense que la priorité, c'est qu'on arrive à la fois à continuer l'innovation pour une meilleure qualité de service tout en préservant une donnée qui est aujourd'hui extrêmement bafoué, c'est-à-dire notre vie privée.
Voilà, intelligence artificielle, la bataille Chine-États-Unis, la 5G, les évolutions des réseaux sociaux, les paiements mobiles. On aurait pu ajouter d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter, comme par exemple la recommandation par algorithme qui se développe avec aussi une composante humaine, ce qu'on appelle la curation intelligente ou smart curation, et tout un tas d'autres évolutions qu'on traitera, sur lesquelles on reviendra tout au long de l'année qui arrive et qui va bientôt commencer, l'année 2019, dans Soft Power. On en reste là pour ce soir. On se quitte d'ailleurs avec Lana Del Rey, Woodstock in my mind. Elle garde la mémoire de Woodstock qui était le thème de cette émission ce soir. Dimanche prochain, nous serons en 2019 et nous nous intéresserons à l'agenda audiovisuel et aux industries culturelles de 2019, justement, avec Martin Hajdari, le directeur général des industries culturelles et des médias au ministère de la Culture. Merci à Maël Guiton, merci à Eliott Lepers et Zoé Sfès d'avoir été tout au long de cette émission ce soir avec nous. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. En attendant, bonne soirée, bonne année à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end. And